RCF.
Bonjour, nous nous retrouvons avec Béatrice Vial-Collet, cette fois-ci pour parler du blanc. Bonjour Béatrice.
Bonjour Cathy, bonjour tout le monde.
Alors blanc, éclair, glace, neige, nuage, colombe, cygne, edelweiss, lys, craie, albâtre, perle, diamant. Le blanc évoque la transparence, l'absence de coloration. Alors on se demande automatiquement si le blanc est une couleur.
Et oui, la question est légitime. Elle s'appuie sur notre ressenti, on en parlera. La première réponse se trouve dans l'histoire. Cette histoire du blanc, elle est une très longue histoire, celle de tous les extrêmes. En fait, la préhistoire utilise beaucoup le blanc. Le blanc a été une des premières couleurs à être employée pour dessiner avec de la craie sur les parois des grottes au Paléolithique et pour se peindre le corps, une coutume qui persiste. Alors, de l'Antiquité au Moyen-Âge, le blanc joue un rôle primordial. Déjà, le blanc est dans le même temps absence et totalité. Trois périodes l'illustrent. Tout d'abord, dans les sociétés antiques, le blanc est une couleur de base. On l'a vu, le blanc est avec le noir le contraire de la couleur, le rouge. Et dans ce système qui s'organise autour de trois pôles, le blanc représente l'incolore et la pureté, comme le noir, on l'a vu, le sombre et le sale. Ce qui lui confère une grande importance puisque jusqu'au Moyen-Âge, on parle plutôt de lumière que de couleur. Vous savez, les prêtres de l'Égypte antique ne devaient porter que des vêtements du lin le plus pur, les bandelettes des momies étaient en lin blanc, et les prêtresses de Rome étaient aussi vêtues de lin, symbole de la chasteté à laquelle elles étaient contraintes. Alors au Moyen-Âge, chez les moines copistes, ce blanc est absence de couleur. Pourquoi ? Parce que le parchemin, couleur coquille d'œuf, est blanchi avant d'être enluminé. Et pour le miniaturiste, le blanc se traduit par l'absence de pigment, sauf bien sûr quand il utilise la céruse. D'où la tentation d'associer ce blanc qui est l'incolore, ce qui n'est pas coloré, au degré zéro de la couleur. Et c'est cette notion que retient l'Inde. Le non-teint, et plus particulièrement le blanc, désigne l'état de pureté relié au détachement et à la sérénité. Il est donc associé à la caste la plus haute, celle des brahmanes. On retrouve du reste cette idée en peinture. Je vais vous donner un superbe exemple. Soulage, quand il était petit garçon, trace des traits noirs sur une feuille blanche et alors on lui demande ce qu'il dessine. Et il répond « de la neige ». Il faisait apparaître le blanc en tant que surface vide, juste par l'intermédiaire du noir. Alors la troisième période, c'est avec Newton en 1665, lorsque on découvre que la lumière blanche est en fait la somme de toutes les couleurs. C'est, on l'a vu, la synthèse additive des faisceaux lumineux, monochromatiques. Ça veut dire qu'un objet blanc ne filtre aucune couleur, il les renvoie toutes. Réfléchissant la lumière solaire, eh bien, il restitue aussi la chaleur du soleil. Et c'est pour rester fraîche que les maisons de la Méditerranée, on le sait, sont blanches.
Alors, couleur de base, non-couleur, somme de toutes les couleurs, la définition du blanc varie d'un extrême à l'autre suivant l'époque et la pratique. En va-t-il de même pour ce qui est de son ressenti ?
Eh bien oui, parce que il est tout cela à la fois. Le blanc est absolu, il symbolise l'un et le tout, équilibre parfait, matité et brillance. La lumière pure, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas diffractée, n'a pas de couleur. Elle apparaît blanche. C'est pourquoi, sur le plan symbolique, pour certains, le blanc, et c'est sa deuxième caractéristique, est dans le même temps départ et aboutissement du jour comme de la vie. Ça veut dire que le blanc est couleur du deuil. Ce deuil blanc a quelque chose de messianique. Il indique une absence destinée à être comblée, une vacance provisoire. C'est le deuil des rois qui vont renaître. Le roi est mort, vive le roi. Le blanc est la couleur de la mort et du deuil à la cour de France jusqu'à la fin du XVIe. Deux images de reines blanches postérieures, Marie-Antoinette, veuve de Louis XVI qui monte à l'échafaud, et Fabiola, reine des Belges, vêtue de blanc à l'enterrement du roi Baudouin. Et puis aussi les guerriers aztèques immolés pour assurer la régénération du soleil étaient ornés de duvets blancs et chaussés de sandales blanches. Ils n'étaient déjà plus de ce monde et pas encore de l'autre. Parce que pour nous, la mort, qui est retour à la terre et aux cendres noires, eh bien, la mort est noire, donc le deuil est noir. Mais il se porte toujours en blanc dans certains pays d'Afrique et en Orient, car la mort est élévation vers la lumière. Deux exemples au Japon, Les condoléances se font sur papier blanc et les cadeaux envoyés à la famille endeuillée sont emballés dans du papier blanc. Et puis en Chine, on dispose autour du mort des fleurs de papier blanc et sur lui autant de sachets de chaux qu'il a vécu d'années. Blanc, enfin, car il a la valeur idéale. Le blanc absolu n'a pas d'autre variation que celles qui vont de la matité à la brillance. Le japonais, vous savez, définit le blanc en 6 termes distincts, selon sa matité ou sa brillance, suivant son énergie. Il y a le blanc inerte, il y a le blanc dynamique. Le blanc se dit en latin albus, d'où vient albâtre. C'est aussi alba, l'aube, l'heure où blanchit la campagne, dit joliment Hugo. Quant au blanc brillant, il se dit candidus en latin, d'où vient candida, c'est-à-dire celui qui va changer de condition. Les candidats aux fonctions publiques s'habillaient de blanc, comme la communiante, candide, dont l'aube signale l'humilité et la pureté du cœur. Le baptême se nommait l'illumination au début du christianisme. Les habits du nouveau chrétien, d'une éclatante blancheur, resplendissent d'une lumière pure.
La robe, vêtement de l'immortalité, symbole de la Renaissance, est remplacée par une écharpe blanche pour les adultes candidats au baptême.
Oui, c'est quand même un peu plus pratique, mais on la retrouve aussi, cette écharpe blanche, en Inde. C'est la katag qu'on offre aux statues du Bouddha, aux lamas et aux personnalités officielles pour demander leur aide par la récitation des prières. On passe aussi une katag autour du cou d'une personne qui vient de décéder ou d'un lama décédé pour lui souhaiter une prompte renaissance. Alors, troisième période, c'est du Moyen-Âge à nos jours, le blanc signale l'exception. Parce que le blanc est la lumière céleste, elle est une couleur divine. Les rois du pouvoir divin adopte le blanc. C'est le drapeau blanc des rois de France depuis la guerre de Cent Ans, la cocarde de Louis XVI, le panache et le cheval d'Henri IV. Et comme plus loin de nous, en Thaïlande, l'éléphant blanc qui est sacré est réservé au roi. C'est la Vierge Immaculée Conception, elle est représentée en blanc. C'est le blanc, la couleur de la révélation, de la grâce. Dieu et les anges irradient de la lumière blanche. Le blanc est la couleur de la théophanie, c'est-à-dire de ceux en qui Dieu se manifeste. L'auréole de lumière nimbe leur tête. C'est la couleur des apparitions, des transfigurations, comme celle du Christ.
Au mont Tabor, tout à coup, Jésus change devant eux. Son visage brille comme le soleil, ses vêtements deviennent blancs de lumière, évangile de saint Marc. Blanc divin pour ce qui est du spirituel, mais qu'en est-il sur le plan social ?
Oui, alors justement, au XVIIe siècle, et ça c'est la deuxième caractéristique de blanc, le blanc est signe de beauté et d'aisance. La blancheur de la peau est une reconnaissance sociale. Les aristocrates se font un masque blanc, poudre ou crème à base de lys ou de lait, pour se distinguer des paysans qui, eux, sont brunis par le travail en plein air. En fait, pour de nombreuses cultures, la clarté de la peau est un canon de beauté. L'usage des fards blancs est attesté dès l'Antiquité gréco-romaine et les représentations des madones montrent que déjà au XIIe siècle, la peau devait être la plus pâle et lumineuse possible. Alors au XXe siècle, le teint hâlé devient le symbole de la conquête sociale, des congés payés et aujourd'hui le balancier repart dans l'autre sens. Le bronzage intensif n'est plus de mise parce que la médecine nous recommande de nous protéger du soleil. Le regard et les modes bougent. Chez nous, un teint très pâle donne l'impression qu'on est en mauvaise santé. Il peut en effet précéder un évanouissement, le sang se retire quand on se sent mal. Les Asiatiques voient du reste dans notre blancheur une évocation de la mort. Le teint du blanc européen est pour eux si morbide qu'il est réputé sentir le cadavre. Alors, un exemple extrême, c'est la blancheur chez l'albinos. Elle est totale et elle peut s'avérer mortelle. L'absence de pigmentation de la peau, des yeux et des cheveux lui retire toute protection contre les rayons lumineux. Quant à l'animal, lui, il ne peut plus se camoufler.
Par contre, le lièvre arctique se pare d'un pelage blanc pendant l'hiver, ce qui lui permet de se confondre avec la neige.
Oui, formidable. Mais le côté effrayant de la blancheur est très présent. Deux autres exemples. Le théâtre chinois utilise des comédiens à visage de tofu, blanc, qui jouent des rôles d'hommes sournois. Et dans les campagnes russes, des comédies conjuratoires miment un enterrement religieux en mettant en scène la blancheur cadavérique. Un homme à la face couverte de farine terrifie l'assemblée.
Mais alors, sur le plan technique, Il va falloir trouver le moyen de produire du blanc. Quels sont les pigments qui ont permis d'obtenir cette blancheur immaculée ?
La conquête du blanc a été laborieuse et beaucoup de solutions se sont succédées avant d'accéder à la pure blancheur. Ça a d'abord été la craie, le kaolin, pendant longtemps les seuls pigments. Mais d'autres matériaux ont été utilisés, comme le riz réduit en poudre, la fiente d'animaux, les coquilles d'œufs ou les coquillages pilés. Si vous voulez voir des belles illustrations de ce phénomène, allez sur Internet. Le carbonate de plomb, la céruse, a été ensuite le plus employé. À l'état naturel, en Iran, et à Smyrne, en Turquie, il servait à peindre les bateaux. On savait le fabriquer dès l'Antiquité, en fait, en exposant des lamelles de plomb à du vinaigre et du fumier animal. On obtenait le blanc de céruse. C'est celui qu'on a utilisé pour les enluminures et les portraits du Fayoum. Allez voir sur Internet, ils sont splendides. Au début du XXe siècle, ce pigment toxique sera interdit. Et il sera remplacé par le blanc de zinc. Par contre, on ne sait pas teindre les tissus en blanc. Alors, on utilise des matériaux blancs, comme le lin, le coton, la laine des moutons, des lamas, des alpagas, le cuir des animaux blancs, comme les buffles. Cependant, la couleur était crue et pas vraiment blanche. Alors, diverses techniques de blanchiment sont mises au point. C'est gratter, étirer le cuir, lessiver à base de cendre, d'argile ou de minerai, la décoloration à partir du soufre, l'exposition au soleil sur le pré humide, et c'est en fait le procédé qui est lié à la photosynthèse des végétaux. Malgré tout, les étoffes restent grisâtres, verdâtres et sans éclat. Et ce n'est que la découverte des produits chimiques qui vont révolutionner le blanc. Le chlore en 1791, puis l'azurite en 1828. On utilise encore les boules de bleu dans la lessive pour donner au linge une légère coloration bleue. Vous savez, c'est l'azurage optique.
Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer. Commencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang. Retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant.
À nos auditeurs qui prennent l'émission en cours de route, je rappelle que nous sommes avec Béatrice Vial-Collet, artiste peintre, cette fois-ci pour parler du blanc. Il a été difficile d'obtenir en teinture le blanc immaculé, mais n'en est-il pas de même dans la nature, qui nous montre peu de blanc vraiment blanc?
Et oui, effectivement, le blanc et le noir sont très rares, parce qu'ils ne peuvent pas être tout à fait purs. Il existe toujours une présence chromatique, si minime soit-elle. Il y a forcément une diffraction de la lumière, si infime soit-elle. Donc la présence du blanc dans la nature est rare, mais elle provoque un ressenti puissant qui est porteur d'une symbolique constante à travers les siècles. Alors c'est quoi ce blanc dans la nature ? Eh bien, ce sont les paysages de neige, la banquise, les icebergs. Ce caractère infini, la splendeur, la perfection nous incite à l'intériorisation ou à la simple contemplation, ce qui veut dire que le blanc immaculé est perçu comme propre. C'est une étendue nue sans aucune trace ni salissure. Le blanc se conçoit comme une garantie d'hygiène, le champ opératoire. C'est la couleur de tout ce qui lave et conserve. Les baignoires, les frigidaires, les savons à la mousse blanche. Vous imaginez un savon qui aura une mousse verte. Jusqu'au temps moderne, en fait, le linge était blanc. C'était la preuve avant tout de l'absence totale de taches, ce qui était, avant la connaissance des microbes, un gage de propreté. Et de plus, le linge blanc pouvait, lui, être bouilli sans risque. Puis au début du siècle, les draps se sont colorés en douceur, en passant des pastels aux rayures, pour arriver aujourd'hui aux couleurs franches. Alors, au XIXe siècle, le blanc envahit l'architecture. On la veut immaculée, en réaction à l'industrie et à l'automobile très salissante. Dans les années 70, l'hôpital, pour s'ouvrir au monde, se tourne vers une polychromie débridée. Et aujourd'hui, on en revient à l'univers rassurant des tons pastels. Ah, vous connaissez la basilique du Sacré-Cœur qui était terminée en 1910 et vous voyez, elle est toujours aussi blanche malgré la pollution. Eh bien malheureusement, il ne s'agit pas d'un miracle, c'est que le calcaire particulier qui a servi à sa construction sécrète sous l'action de la pluie une substance blanche, le calcin. Et j'ai envie de parler des Esquimaux qui ont des dizaines de mots pour neige avec deux racines, canic qui signifie la neige en l'air ou flocon de neige et aput pour la neige sur le sol.
Peut-être ont-ils aussi un mot pour les neiges éternelles. Célestes, sur les cimes du monde, vierges, pures, éternelles, elles ont toutes les caractéristiques du blanc.
Oui, c'est que le blanc de la neige uniformise les champs et nous évoque l'innocence avec blanche neige, la pureté, la virginité. C'est le suaire blanc des enfants ornés de fleurs blanches. À la cour de France aussi, les enfants royaux étaient habillés de blanc jusqu'à l'âge de 7 ans. On peut penser aussi à la robe de mariée qui est blanche depuis le XIXe siècle. Le blanc, en affichant la virginité de la mariée, assure que ses garçons seront bien les fils du marié. De même, le kimono blanc traditionnel de la mariée japonaise témoigne de son état de pureté. Et puis, au Népal, savez-vous que le blanc scande la vie. Le premier repas, la première coupe de cheveux, le mariage, les funérailles, au cours desquelles une longue étoffe blanche indique à l'âme la route à suivre pour se rendre au paradis et y renaître. C'est joli ça. Alors, le blanc, c'est aussi les nuages, les reflets brillants sur la mer, la lune, le lys, le lotus, ils invitent au rêve, stimulent notre imaginaire. Alors, dans ces cas-là, le blanc suscite la sérénité, le bonheur. On dit marqué d'une pierre blanche. On pense à la colombe de la paix. Mais attention, l'impression de quiétude que nous donne le blanc est parfois trompeuse. Le cygne se montre agressif et l'aigrette pousse un cri de corneille quand on la dérange. Dès le XIVe siècle, le drapeau blanc demande l'arrêt des hostilités. Sa couleur s'oppose au rouge de la guerre. Alors ce blanc, c'est aussi la blancheur maternelle. Elle évoque un devenir plein de promesses, comme le lait de la mère, riche de potentiel vital.
D'ailleurs, dans les annonciations, figure souvent un lys blanc.
Oui, effectivement, comme en terre d'islam, une nouvelle blanche désigne un message de joie. Alors, ce blanc est aussi et surtout la lumière. Le blanc, luminosité par excellence, dans le domaine religieux, elle éclaire ceux qui souhaitent se rapprocher de Dieu. Les servants des cultes et les pèlerins sont habillés de blanc. Et les cierges sont blancs pour rappeler que le Christ est lumière pour éclairer les nations. Dans ce cas, on peut dire que le blanc est couleur de la simplicité, de la discrétion et de l'innocence du débutant. Le blanc signale le plus facile dans les disciplines. Il y a la ceinture blanche au judo, la piste blanche en ski.
Mais le blanc est aussi froid, rigoureux, sévère. Il nous impressionne. Se regarder dans le blanc des yeux, regarder fixement quelqu'un.
Oui, parce que le blanc est une valeur basique, sans faux semblant. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est-à-dire exactement identique. Le blanc est là une couleur franche, élégante. C'est la chemise blanche, les cols blancs dans l'industrie, par opposition au col bleu.
Et le blanc incite au respect. Les cheveux blancs ne riment pas qu'avec vieillesse. Pour beaucoup de cultures, ils riment avec sagesse. Le grand âge, selon les croyances, annonce un début ou une fin.
Oui, j'ai envie de vous donner deux autres exemples du blanc sagesse. Chez les soufis, le blanc est signe de lumière intérieure, de sagesse, la couleur blanche du vêtement des pratiquants évoquant l'unicité de Dieu. De même, le blanc qui figure le Bouddha symbolise la sagesse transcendantale. Et les animaux blancs, c'est-à-dire les moutons, les taureaux, les colombes, étaient, eux, réservés au sacrifice. Alors ce blanc, enfin, c'est l'éclair. La lumière trop intense, la pleine lune, l'aube, et dans ce cas, il s'agit d'un spectacle saisissant, profond, vide et silencieux. Dans ce cas, le blanc est associé à l'absence. On dit avoir un blanc, et le qualificatif blanc désigne souvent un manque. La page blanche est sans texte, la voix blanche sans timbre, la nuit blanche sans sommeil.
Un chèque en blanc et sans montant, et la balle à blanc sans poudre.
Donner un blanc-seing, c'est une feuille vide de texte que quelqu'un remplira.
Le mariage blanc, union fictive, renvoie à l'absence de communauté de vie et de consommation du mariage.
Et puis donner carte blanche, c'est laisser toute liberté de manœuvre, sans aucune obligation.
Les votes blancs, qui ont de plus en plus d'importance, au point que la France étudie un projet de loi qui propose de les décompter à part. Alors qu'ils étaient qualifiés de nuls, ce qui ne va pas dans le sens d'une couleur neutre.
Oui, et cela confirme l'extrême ambiguïté du blanc, dont la froideur peut impressionner, et plus encore. Le blanc intense, quand il est lumière trop forte et claire, peut faire peur. C'est l'explosion nucléaire. Il peut éblouir. Le soleil fort ne peut se regarder qu'avec des lunettes sombres. Sur le plan symbolique, plusieurs conséquences découlent de la puissance, de la profondeur de ce blanc. Tout d'abord, le blanc est la lumière primordiale. À l'origine était le néant absolu, le chaos. Puis il s'est brisé en donnant naissance à la lumière. Le premier acte de la création est la clarté du jour avec sa couleur blanche et la nuit avec sa couleur noire. C'est-à-dire que le blanc est la couleur de l'origine du monde et de tout ce qui relève de transcendant. Depuis l'Antiquité, spectres, apparitions, revenants du monde des morts sont blancs. Ça n'a pas changé. Linceuls et fantômes sont toujours blancs. Et la deuxième conséquence, c'est que l'aube est un instant de vide total. Transition de la nuit au jour, passage du noir au blanc, comme de la vie à la mort. Elle inhibe l'être suspendu dans une blancheur creuse, passive et feutrée. On peut comprendre que l'aube soit le moment des perquisitions, des exécutions capitales dans lesquelles la chemise blanche du condamné marque la soumission et la disponibilité. Troisième conséquence de ce côté impressionnant du blanc, le blanc est une couleur de passage, celle des rites des plus simples aux plus importants où s'opère la mutation de l'être, de la mort, vers la renaissance. Par exemple, en Australie et en Nouvelle-Guinée, des dessins au kaolin transforment l'homme en squelette pour que son ancêtre puisse se réincarner dans sa descendance et faciliter la communication des vivants et des morts. Et pour la même raison, les points cardinaux est et ouest sont symboliquement figurés en blanc. Ainsi, l'ouest est le blanc de la mort qui introduit à la disparition de la conscience et des couleurs diurnes. Il descend de la brillance à la matité. Le blanc de l'est est celui du retour de l'aube, le moment où le ciel réapparaît avec un potentiel rechargé pendant la nuit, qui monte de la matité vers la brillance. Ce sont deux blancheurs suspendues entre lune et soleil, entre absence et présence. Kandinsky résume très bien cette très belle symbolique du blanc dans la nature. Le blanc, que l'on considère souvent comme une non-couleur, agit sur notre âme comme le silence absolu, qui regorge de possibilités vivantes. Un rien plein de joie juvénile, avant toute naissance, avant tout commencement. Ainsi peut-être a résonné la terre, blanche et froide, au jour de l'époque glaciaire.
Et maintenant, Béatrice Vialcollet, le clap final. Votre clin d'œil pour vivre en couleur ?
Serait-ce une conclusion, ou mieux, puisqu'il s'agit du blanc, un recommencement ? Jules Renard nous dit « La vieillesse arrive brusquement, comme la neige, un matin, au réveil. On s'aperçoit que tout est blanc. » Alors, j'ai envie de dire carpe diem. Semons quelques graviers, cailloux blancs, pour nous créer un jardin zen, secret ou véritable. Le blanc nous parlerait de l'essentiel, peut-être de notre innocence perdue. Il nous mènerait de la contemplation à la joie intérieure. Alors, comme l'alchimiste, nous transformerions notre plomb intérieur en or.
Encore une fois, on découvre que le monde n'est pas en noir et blanc et qu'on vit en couleur. Merci Béatrice, vous êtes peintre. Ne l'oublions pas, si vous voulez voir des couleurs, consultez le site de Béatrice Vialcollet. Tapez son nom sur Google, comme ça vous aurez le son et l'image.